RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Merci d'être avec nous pour ce deuxième acte, vous le savez, dédié à toute l'actualité des animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Tout à l'heure, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, notre expert auto, qui sera là. Qu'est-ce qu'un passage au marbre ? Jean-Luc nous expliquera ce dont il s'agit. On s'intéressera aussi à la Nissan Leaf 30 kWh, c'est l'électrique forte autonomie. Nissan, qui on le sait, s'est vraiment bien positionné sur les véhicules électriques. Et puis en deuxième partie, on vous expliquera comment contester un PV avec des spécialistes qui seront là et qui vous aideront. Si vous avez des questions, ce sera à partir de 8h sur RMC. Mais dans l'immédiat, Laetitia, avant de nous intéresser à ces bouquetas, avant d'apprendre à devenir toiletteur canin, je ne sais pas si on y arrivera, mais bon, voilà. Et avant de découvrir une belle histoire du jour avec Audrey qui a sauvé un chien qui s'appelle Marley, avant tout cela, on va revenir sur une actualité triste, là, oui, dérangeante, hein, Laetitia. On va parler des abattoirs des animaux maintenant.
Voilà, et nous sommes avec Frédéric Freund, qui est directeur de l'OABA, qui est l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, une association de protection des animaux de ferme qui a porté plainte contre l'abattoir d'Alès. Et on en a beaucoup parlé cette semaine de cette vidéo avec ces images choquantes, ces images qui suscitent vraiment émotion et colère, parce qu'on y voit quand même des animaux saignés ou découpés en état... même suspendus alors qu'ils sont encore conscients, enfin dans des conditions sanitaires aussi
c'est une vidéo qui est limite, qui est incroyablement soutenable
en exactement fait. Exactement. Frédéric, bonjour, bienvenue.
Merci, bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour François.
Alors vous avez porté plainte. Alors quand on voit la vidéo, on se dit comment est-ce possible aujourd'hui et en France?
Alors c'est vrai que quand on a visionné la vidéo à l'OABA, et pourtant on connaît ce genre d'image.
Bah oui, parce que votre association visite des abattoirs, justement.
Oui, absolument, depuis plus de 50 ans maintenant. Et quand on a vu ces images, on s'est demandé, justement, si on n'était pas revenu dans les années 60, au début des années 60, lorsque Madame Gilardoni a créé l'OABA, justement, pour améliorer les conditions d'abattage et rendre obligatoire l'insensibilisation des animaux lors de leur mise à mort. Alors, malheureusement, je dirais, ces images ne surprennent pas l'OABA, notamment pour le cas d'Alès, puisque...
Vous le saviez déjà qu'il y avait des pratiques vraiment cruelles?
Alors, on n'avait jamais, assisté à ce condensé d'horreur que nous dévoile cette vidéo qui est mise en ligne maintenant depuis plus de 72 heures.
Qui a été filmé, enfin en caméra cachée, je crois en avril de cette année.
Oui, c'était au premier ou tout début du deuxième trimestre 2015 pendant plusieurs jours effectivement. Cet abattoir d'Alès, nous l'avons déjà visité depuis de nombreuses années, et notamment en 2008. Vous voyez, ça remonte pas. Ça remonte déjà un petit bout de temps. En 2008, on avait assisté également à des scènes extrêmement choquantes, contraires à la réglementation, puisque notre délégué, lui-même, avait arrêté la chaîne d'abattage en allant ensuite chercher le vétérinaire inspecteur pour lui montrer qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On y était retourné. Il y avait également encore eu des problèmes en 2011, en 2012, en 2013, même si, bien évidemment, ils étaient beaucoup moins importants que ce qu'on avait vu en 2008. Et on savait que il y avait aussi, depuis quelque temps, des problèmes avec l'abattage des chevaux. C'est pour cela qu'on avait demandé à y retourner cet été, en juin 2015, et on avait fait une nouvelle demande en août 2015, mais ces deux demandes de 2015 ont été refusées. Quand on voit les images, on se dit, on comprend pourquoi. Ils n'avaient pas envie qu'on recommence l'épisode de 2008 en leur interdisant une partie des abattages ou en les obligeant à s'équiper avec un nouveau box.
Alors, on se dit, c'est incroyable de voir ça. Il y a une réglementation quand même, il y a une réglementation française, même européenne, qui vise aussi à éviter les souffrances supplémentaires à ces animaux qui vont être abattus.
Effectivement, la réglementation, elle est européenne. C'est un règlement communautaire qui est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Avec, à l'époque, l'OABA avait salué quelques avancées de ce règlement par rapport à ce qui
existait. Quel est-il?
Alors, il y a différents... Bon, je ne vais pas détailler le règlement parce qu'on allait jusqu'à Noël, je pense, mais il y a différents points, je dirais, clés, très importants de ce règlement, notamment la formation obligatoire de tous les opérateurs. Toute personne qui travaille en abattoir, aujourd'hui, doit être titulaire de ce qu'on appelle un certificat de compétence. On pourrait y revenir quelques minutes plus tard.
Après, on a aussi le fait que l'animal doit être inconscient au moment de l'abattage.
Voilà.
Étourdi, comme on dit, c'est ça. Hein,
voilà.
Ça, c'est la réglementation de base avec, dit le règlement.
Dans la vidéo, ils sont pas inconscients, quoi.
Non, alors, dans la vidéo, il y a à la fois de l'abattage classique et de l'abattage rituel.
C'est-à-dire,
pour les productions de viande halal. Mais dans l'abattage classique, le règlement impose des contrôles de procédures d'abattage et notamment la vérification de l'efficacité de l'étourdissement. Là, dans ce qu'on voit, il n'y a absolument pas de contrôle de l'efficacité de l'étourdissement. Et lorsque l'étourdissement est mal fait, ça peut arriver de louper, c'est-à-dire c'est pas une science exacte, le règlement impose de refaire immédiatement un second étourdissement. Là, dans ce qu'on voit, jamais il y a un deuxième étourdissement. Autre point important du règlement, le RPA, le responsable protection animale, dans chaque abattoir, vous devez avoir une personne qui est responsable de la bonne application des règles, des modes opératoires normalisés en matière de protection animale.
Mais là, il était en vacances.
Bah oui, ou la machine à café, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'était pas là. Et puis enfin, dernier point aussi très important, c'est que les professionnels avec les associations de protection animale, et nous y avons travaillé, doivent établir des guides de bonne pratique. Alors, il y a des guides de bonne pratique. Ce sont des gros pavés de 300 pages. Nous, à l'OABA, on a essayé de les synthétiser avec des images, avec des dessins, en faisant des petits guides de bonne pratique pour l'abattage des ruminants et des porcins.
Est-ce que ce cas d'abattoir d'Alès qui vient d'être fermé pour l'enquête, est-ce que c'est un cas isolé ou malheureusement il concerne d'autres abattoirs en France?
C'est difficile de répondre. On serait tenté à l'OABA de dire que malheureusement il n'y a pas qu'un seul Alès en France aujourd'hui. Je dis que c'est difficile de répondre. Pourquoi? Parce que malheureusement nous visitons de moins en moins d'abattoirs. Oui. Les images, ils ne veulent pas que
vous les visitiez, tout simplement.
Voilà, les images qu'on a vues et qu'on peut encore voir aujourd'hui, rappellent étrangement celles qui avaient été filmées en 2002 dans l'émission La Viande dans tous ses états diffusée par Envoyé Spécial.
Et l'abattoir avait été fermé, je crois bien.
Voilà,
après.
Absolument. C'était à l'époque l'abattoir de Saint-Afrique où j'avais visité cet abattoir avec ma casquette OABA, mais j'avais présenté une de mes assistantes qui en fait était une journaliste de France 2 et qui avait tourné également des scènes d'horreur dans quelques abattoirs. Et il est évident que cet abattoir avait fermé pendant 2 mois. Bon, il a rouvert par la suite. Je suis pas certain qu'au jour d'aujourd'hui, les conditions aient considérablement évolué. Malheureusement, on ne peut plus y aller puisque si vous prononcez mon nom, il sortait le fusil.
Oui, c'est voilà.
Bon, je schématise, mais c'est à peu près ça.
Oui.
En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre la dernière fois que j'ai eu au téléphone. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a à peu près 60% de refus de visite, notamment des grands groupes. Vous savez, les Bigards, les Charals, les Socopas, etc. Ils ne veulent plus des délégués de l'OABA dans les abattoirs. Alors, on a encore, bien évidemment, quelques visites d'abattoirs, mais on est obligé de prendre rendez-vous. On ne peut plus faire comme on le faisait avant, c'est-à-dire venir plus ou moins à l'improviste. Et bien évidemment, en prenant rendez-vous, ils savent qu'on va venir.
Oui.
Bien évidemment, la visite est beaucoup moins pertinente que si elle était un petit peu, entre guillemets, cachée. Voilà.
Frédéric, on va revenir dans un instant. Il est 7h19, c'est RMC, c'est le week-end des experts. N'hésitez pas à réagir par mail ou au 32-16 si vous le désirez. Le mail animaux@rmc.fr. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h21, c'est RMC, c'est le week-end des experts, les animaux, Laetitia. On poursuit sur cette affaire de l'abattoir d'Alès qui, évidemment, a fait le tour sur les réseaux sociaux avec une vidéo insoutenable. On en parle avec Frédéric Freund, qui est directeur de l'OABA. Frédéric, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, en fait, pour que ce genre de vidéo incroyable arrête d'exister, en fait?
Je pense que la moindre des choses, comme on le disait tout à l'heure, ça serait de répondre à la question, est-ce que Alès c'est un cas isolé ou est-ce qu'il y a encore aujourd'hui en France d'autres d'autres abattoirs d'Alès, entre guillemets, en activité. C'est d'ailleurs le but de la proposition de résolution qu'a déposée il y a deux jours une sénatrice de l'Ain, Madame Gouachavant,
oui.
Aux fins d'entraîner une mission d'enquête parlementaire pour justement faire le point sur les techniques actuelles d'abattage, voir ce qui ne va pas et proposer les modifications législatives, normatives qui s'imposent. Le problème, c'est que j'ai écouté attentivement Monsieur Stéphane Le Foll, notre ministre de l'Agriculture, chez vos confrères d'Europe 1 il y a deux jours.
Oui.
Visiblement, cette commission d'enquête parlementaire, il n'en veut pas. Il est même prêt à dire n'importe quoi sur Madame Gouachavant, par exemple qu'elle ne veut plus de viande dans les assiettes des Français, ce qui est un mensonge éhonté, puisque...
Mais c'est pas le problème.
Oui, c'est non, pas le sujet.
C'est pas le sujet.
C'est pas du tout le sujet, et d'autant que cette sénatrice était rapporteure en juillet 2013 d'une mission d'information sur la filière viande, déjà, pour aider les éleveurs, pour renforcer la compétitivité de la filière viande française, d'améliorer les conditions déjà d'abattage et puis d'hygiène alimentaire. Et force est de constater et de regretter que ces 40 mesures qui avaient été prises par la mission sénatoriale d'information n'ont absolument pas été mises en œuvre par le gouvernement et aujourd'hui, nous considérons à l'OABA que du coup, ce gouvernement, en ayant fait la sourde oreille et en n'ayant pas lu ce rapport et en n'ayant pas mis en place au moins quelques mesures, a une part non négligeable de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans les abattoirs.
Est-ce qu'il y a un problème de contrôle ? Parce que, bon, nous, la profession vétérinaire, on le dit aussi qu'il y a très peu de vétérinaires qui sont employés par l'État pour l'inspection des abattoirs.
Oui, effectivement. Vous avez le syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire, donc le syndicat des vétérinaires inspecteurs, qui, à plusieurs reprises, a publié des communiqués de presse où, justement, il dénonce la baisse des effectifs et l'impossibilité de mener à bien les différentes missions qui leur sont confiées, à savoir des contrôles d'hygiène et de protection animale. Vous savez, aujourd'hui, j'entends et je lis beaucoup de choses, notamment, vous savez, on lit un article, on peut mettre un commentaire, les vétérinaires s'en prennent pour leur grade. Je ne suis pas là pour les défendre, le syndicat le fera beaucoup mieux que moi. Simplement, j'essaie de me mettre à leur place, c'est pas évident, mais ils essayent de faire ce qu'il est possible de faire avec leurs moyens. Quand je vois qu'à l'abattoir d'Alès, alors on me dit oui, c'est un petit abattoir, c'est quand même pas le petit abattoir, parce que c'est le plus grand abattoir du Languedoc-Roussillon. C'est sûr qu'au niveau tonnage, il n'a rien à voir avec les grands abattoirs de groupes de l'ouest de la France, par exemple. Mais dans cet abattoir, il y avait un vétérinaire. Quand on sait qu'une journée d'abattage, elle commence à 4 heures, elle se finit à 13 heures, on imagine mal le vétérinaire, pendant 9 à 10 heures, être présent partout. Mmh. À la fois sur les carcasses.
Oui, parce qu'il doit inspecter les viandes après, hein, les carcasses. Bien sûr.
Pour voir si elles sont consommables, etc., j'imagine.
Oui,
aussi.
Parce qu'il doit mettre son tampon.
Oui. Et oui, il met son tampon et en mettant son tampon, il engage sa responsabilité et celle de l'État. Mmh. Et bien évidemment, entre une mission qui est sur l'hygiène, donc la sécurité sanitaire.
Qui va être prioritaire, en fait, c'est ça.
Oui.
Cette mission-là
oui,
va être prioritaire par rapport au bien-être des animaux.
Voilà, parce que c'est la santé humaine.
Vous avez tout compris. Et donc, du coup, dans mon observation, vous avez deviné la solution, c'est qu'il y ait au moins deux vétérinaires minimum dans chaque abattoir pour au moins couvrir d'une part la totalité de la plage horaire de production, mais aussi de couvrir les deux aspects hygiène alimentaire et protection animale.
Très bien, merci beaucoup Frédéric Freund pour toutes ces précisions.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je rappelle que vous êtes directeur de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. On mettra le lien sur votre site, parce que vous avez aussi une pétition et puis aussi signé la pétition de L214 pour que cet abattoir soit fermé, ou en tout cas qu'il y ait une enquête.
La diffusion de cette vidéo tournée à l'abattoir d'Alès pose la question des conditions d'abattage des animaux. Souhaitez-vous être mieux informé sur ces conditions d'abattage? Oui, c'est un sujet trop opaque, Laetitia. 70% de nos votants sur le site web d'RMC, rmc.fr. C'est notre question RMC Wamise de ce dimanche matin. Laetitia, on va revenir dans un instant. On va s'intéresser maintenant aux bouquetins du massif du Bargis qui sont en sursis. Tout à l'heure, on vous fera découvrir le métier de toiletteur canin avec Pauline Oliva. Et puis une petite histoire qui dénote avec ce dont on vient de parler. Hein, une histoire qui se termine bien d'un chien qui allait être euthanasié et qui a été sauvé par sa propriétaire. Le 32-16, animaux@rmc.fr pour joindre Laetitia Barlerin. À tout de suite après la météo et les infos. Laetitia, attention, une petite question flash maintenant avec la question d'Yveline. qu'on a reçu sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Donc au passage, n'hésitez pas à cliquer sur...
J'aime, bien sûr.
Mon chien adorable et assez obéissant, Laetitia, n'arrête pas d'aboyer envers les autres chiens qu'il croise dans la rue. Que puis-je faire?
Alors Evelyne, votre chien aboie pourquoi? C'est ça qui... C'est une question à se poser. Soit parce qu'il veut aller voir les autres chiens et éventuellement jouer avec eux, et il est frustré par cette laisse. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il aboie pour leur dire venez vers moi. Puis bien sûr les autres sont à l'aise donc ils viennent pas. Soit parce qu'il a peur des autres chiens et il a compris que le fait d'aboyer, comme par hasard, les chiens s'en allaient. Donc c'est un renforcement positif. Soit il veut en découdre avec les chiens, mais ça c'est surtout les chiens mâles envers les autres chiens mâles. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Evelyne, moi ce que je vais vous proposer de faire, c'est premièrement, si l'autre chien que vous croisez a l'air sympa, allez avec votre chien vers l'autre chien et allez caresser le chien en lui disant tu vois, il est sympa ce chien. Et votre chien va prendre confiance et aller le voir, le sentir, etc. Et puis surtout, ce qu'il faut faire, c'est ne pas tirer sur la laisse, parce que quand vous mettez une tension sur la laisse, vous encouragez inconsciemment le comportement de votre chien. Et puis surtout, vous allez aller dans un endroit où on peut lâcher les chiens, un parc, un bois, enfin voilà, un endroit près de chez vous où on peut lâcher les chiens, où il y a d'autres chiens. Et voilà, vous allez d'abord permettre à votre chien de courir, et donc s'il a beaucoup d'énergie, c'est très bien pour lui de se défouler, et surtout d'aller vers d'autres chiens, de jouer avec eux, de discuter avec eux, même si au début ça grogne ils ont l'air de pas s'entendre. En tout cas, il faut lâcher votre chien avec d'autres chiens pour qu'ils s'habituent à leur présence et qu'ils parlent avec eux. C'est très important de parler.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h34, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Merci d'être avec nous comme tous les dimanches, entre 6h et 8h, avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Tout à l'heure, nous accueillerons Audrey, qui a sauvé Marley. C'est un chien de 10 ans qui allait être euthanasié le mois dernier, alors qu'on le pensait fou. Et aujourd'hui, bien sûr, ce chien va très bien. On découvrira le métier de toiletteur canin avec Pauline Oliva, qui est au top du top dans ce domaine-là. Elle a été sacrée meilleure apprentie de France en toilettage canin.
Ah, donc, et elle n'a que 20 ans.
Oui. D'ailleurs, elle va vous refaire une coupe de cheveux après, Laetitia. Je me suis arrangé avec Pauline.
Écoutez, je sais qu'elle a gagné avec la coupe mouton. Alors, j'imagine ma coupe en coupe mouton.
Ah, ça pourrait être sympa, ça, tiens. Ça pourrait être très cool.
Bon. Ça doit être un petit peu frisé, mais bon. Ouais.
Il faudrait que je refasse une deuxième photo Twitter, parce que je suis en train de poster une petite photo de nous sur mon Twitter FSorel. Et j'adorerais vous voir en mouton. Ça pourrait être sympa. Et pour l'instant, tiens, puisqu'on parle de mouton, alors c'est un, on va dire, un cousin, le bouquetin, Laetitia. On
quelle
va parler...
transition. Vous avez vu ? C'est catastrophique, mais ça fait rien.
Allez, on va parler du bouquetin du massif du Bargy qui est en sursis.
Et nous sommes avec le docteur François Moutou, qui est vétérinaire et qui est auteur du livre qui s'appelle « Des épidémies des animaux et des hommes » aux éditions Le Pommier. François, bonjour.
Bonjour Laetitia.
Bonjour. Merci d'être avec nous. François. Alors, il y a un an, on en parlait d'ailleurs de ces bouquetins de Bargy en Haute-Savoie, c'est des centaines de bouquetins qui sont en sursis en attendant la décision du tribunal administratif de Grenoble, qui est attendu pour demain normalement. En effet, les autorités veulent abattre la majorité du cheptel de ces bouquetins dans le cadre de la lutte contre la brucellose, qui est une maladie animale qui peut être transmise à l'homme. Alors rappelez-nous d'abord les faits, parce que c'est un peu... on se demande pourquoi les autorités veulent absolument abattre ces bouquetins, qui est quand même une espèce qui est protégée.
Absolument. Alors l'histoire commence en fait en 2012 et on découvre à quelques semaines d'intervalle un cas humain sur un enfant et puis un cas dans un troupeau de vaches dans la même vallée de Haute-Savoie.
Un cas de brucellose.
De brucellose, bien sûr, cette maladie. Et on se rend compte qu'en fait, qu'il y a un lien entre les deux. Et cet élevage de bovins fait du lait qui sert à faire du reblochon au lait cru. Et probablement, cet enfant a consommé un reblochon qui était contaminé par le lait d'une vache malade. L'enfant est soigné, le troupeau bovin est éliminé et on cherche d'où vient cette bactérie. C'est une bactérie, la cause de la maladie, sachant que la France n'en a plus depuis 1999. Donc ça fait déjà 12 ans que la maladie a disparu officiellement du territoire. Et en regardant autour dans la vallée, on se rend compte que les bouquetins ont des signes qui d'un seul coup font penser à cette maladie, alors qu'on n'avait pas du tout imaginé qu'ils pouvaient être participants dans cette histoire-là.
Oui.
Et un premier bouquetin est capturé avec les autorisations, on fait des prélèvements, et cette population de bouquetins, vraiment, héberge cette bactérie. En tout cas, certains d'entre eux hébergent cette bactérie. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi? Quelle est l'histoire avant? Personne n'en sait rien.
Et oui, comment la transmission s'est faite?
Eh bien, la transmission a dû se faire avant 1999, date du dernier cas de maladie dans cette vallée chez des animaux de ferme. Et ce sont les animaux de ferme qui ont contaminé les bouquetins.
Et
tout ce temps-là, eh bien, les bouquetins ont gardé la bactérie, apparemment sans trop de signes, en tout cas n'avaient pas repéré, et ils l'ont conservé jusqu'en 2012, 2013, et ils l'ont encore en 2015.
Mais alors... Là, la décision a été d'abattre la majorité du cheptel. Alors, ça fait quelques années qu'on abat les bouquetins. Est-ce que la santé humaine est en jeu?
Alors, c'est une maladie, on la connaît, on sait ce que c'est. Effectivement, elle peut rendre malade. C'est une maladie qu'il faut prendre sérieusement. Mais comme beaucoup de maladies, si on sait la dépister, on sait la prévenir, on sait la guérir, c'est pas quelque chose, c'est pas Ebola, c'est pas une maladie qui...
C'est pas la rage.
Ça. Donc, mais c'est certainement sérieux, il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais on la connaît, c'est pas une maladie inconnue, on a les armes pour faire face. Et en fait, quand on a regardé les bouquetins de plus près, on s'est rendu compte qu'une partie, un bon tiers à l'époque, était porteur de la bactérie. Et clairement, ces animaux malades, c'est vrai qu'il faut les retirer. Parce que d'une part, ils ne sont pas très, très en bonne santé.
Ils en sont malades de la brucellose.
Évidemment.
Absolument. Et ils peuvent transmettre à ceux qui ne sont pas encore cette bactérie.
Mais alors, pourquoi les abattre?
De là à dire, on abat tout. Ça, c'est sans doute une démarche excessive par rapport à cette situation, parce que d'une part, abattre des animaux dans la montagne, comment est-ce qu'on peut abattre tout alors qu'on sait même pas combien il y en a? Parce que les bouquetins, c'est pas comme des vaches avec une boucle à l'oreille qui habitent chez quelqu'un dans un pré avec une clôture. Ils sont dans un massif de montagne. Si éventuellement ils veulent changer de massif, ce qu'ils font pas trop souvent, heureusement, comment les empêcher? Et donc la réaction pour dire abattons tout, on va régler le problème, est sans doute pas adaptée à cette situation.
D'autant plus que s'il y a une pression de chasse comme ça sur des bouquetins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur les autres massifs. Oui. Donc c'est un peu ce que disent les experts, c'est qu'on risque une dissémination de la brucellose, alors que là c'était sur ce massif-là du Bargis.
Absolument. Donc l'idée qui avait commencé déjà en 2012, c'était de capturer les animaux les uns après les autres. Ça peut prendre du temps, mais à la limite, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a aucun caractère d'urgence à cette situation. Et ceux qui sont malades, on les garde, on les élimine, on ne les relâche pas. Et ceux qui sont indemnes, on leur met une bague à l'oreille, on les relâche. Et peu à peu, on va éliminer les animaux qui ne sont pas porteurs. Et c'est vrai que si on vient, et c'est ce qui a commencé à être fait, très brutalement tirer dans le tas, les animaux, ils ne sont pas tout à fait bêtes. Et ils vont finir par chercher à éviter les coups de fusil et ils vont de plus en plus changer de massif au risque de transporter la bactérie avec eux.
Et est-ce qu'on peut les vacciner tout simplement?
Alors c'est une question qui est très pertinente et depuis 2012, les experts se posent la question. Alors on n'a jamais vacciné de bouquetin et donc on a commencé à réfléchir à comment faire pour faire des protocoles de tests, pour vérifier que c'est possible, que ça ne fait pas, il n'y a pas d'inconvénient, mais on n'a jamais eu d'autorisation pour le faire. On ne peut pas manipuler un vaccin sur une espèce inhabituelle sans autorisation et l'administration refuse. Alors aujourd'hui, on ne sait toujours pas si on peut vacciner puisque depuis 2012 que la question est posée, on n'a pas les autorisations pour le faire. Donc aujourd'hui, on dit, on ne sait pas. Ben oui, mais si en 2012, on avait commencé dans des conditions expérimentales, sur des animaux en captivité, voir ce qui se passait, on aurait des réponses qu'on n'a toujours pas. Et donc on justifie par cette absence, mais un peu volontaire, le fait que la seule solution soit le fusil. Mais c'est sans doute pas, je redis, la meilleure façon de voir les choses.
Et donc là, après, ils sont vraiment condamnés, tous ces bouquetins, alors?
On
attend la décision demain, mais bon...
Oui, on attend une décision demain. Alors, il faut imaginer que, déjà, le préfet, dans la semaine qui vient de s'écouler, avait commencé à faire des abattages. Donc, c'est vraiment une opération militaire où des dizaines de gendarmes bloquent le massif avec des armes de tir de précision, avec des hélicoptères. Enfin, c'est vraiment une opération militaire par rapport à une maladie. Bon, c'est un petit peu étonnant. Et en plus, il y a un coût extraordinaire. Et donc... Tout ça va être débattu au tribunal demain avec des arguments sanitaires, des arguments scientifiques, des arguments qui sont sans doute plus politiques parfois que scientifiques. Alors, on verra quelle sera la décision. Mais ce qui est certain, par contre, c'est qu'on ne pourra jamais tous les tuer. Ça, c'est le paradoxe. C'est que les animaux sauvages, ils ne sont pas toujours idiots et ils se cachent.
Bien sûr.
Et dans ce type de relief, pour d'autres raisons, on a mis des colliers au bouquetin pour les suivre, pour voir un petit peu leur déplacement. Et il y a des situations, plusieurs fois, où l'animal était au bout du signal. On savait qu'il était dans la falaise devant. Mmh. Et personne ne le voyait. Il était à quelques dizaines de mètres.
Oui. Donc il arrive à se...
Bien sûr. Et donc cela, on ne pourra jamais les tirer. Mmh. Et en plus, les cadavres ne sont pas systématiquement ramassés pour être analysés. Quelquefois, ils sont dans des coins inaccessibles. Mmh. Et du coup, on ne peut même pas savoir si l'animal qu'on tue est un mâle ou une femelle, s'il est jeune ou s'il est vieux, s'il est porteur ou pas de la maladie. Et donc, l'information associée, qui serait globalement intéressante, est perdue également.
D'accord. Merci François Moutou pour toutes ces précisions.
Merci François. On va y revenir suite à la décision demain. On va voir la semaine prochaine ce qu'il en est et on prendra des nouvelles de ces bouquetins, bien sûr. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes auteur de des épidémies, des animaux et des hommes aux éditions Le Pommier. C'est vraiment d'actualité.
7h43, c'est RMC. Dans un instant, Pauline Oliva sera avec nous. Elle est meilleure apprentie de France en toilettage canin, Laetitia.
Attention, elle a 20 ans.
Et on va la retrouver dans une minute sur RMC. A tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le week-end des experts, les animaux, il est 8h moins le quart. Encore un petit quart d'heure à passer ensemble avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire, avant de changer d'univers. Ce sera l'automobile tout à l'heure entre 8 et 10 avec à mes côtés Jean-Luc Moreau. Laetitia, dans un instant, découvrira une vidéo vraiment très drôle qui met en scène un chat et un écureuil. Sachant que le chat, habituellement,
croque
l'écureuil. On est d'accord.
Mais là, non.
Et bien là, c'est presque le contraire.
C'est les meilleurs amis du monde.
Voilà, c'est
ils
trop
jouent
mignon.
Ensemble et c'est mignon comme tout.
On retrouvera cette vidéo dans quelques instants et on la postera bien sûr sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. On va aussi écouter le joli témoignage de l'une de nos auditrices, Audrey. Mais auparavant, Laetitia, on va s'intéresser à un métier important. Quand on a un chien, de temps en temps, il faut qu'il y passe. C'est le toiletteur.
Eh ben oui, le toiletteur canin. Et nous sommes avec Pauline Oliva qui vient d'être sacrée meilleure apprentie de France en toilettage canin. Pauline, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Pauline et bravo.
Bravo déjà, bravo. Alors vous avez 20 ans, vous êtes tout juste diplômée en toilettage canin après 2 ans d'apprentissage au centre de formation de la Bourse du Travail dans le Sud-Est.
Oui.
Alors pourquoi avoir choisi ce métier d'abord? Parce qu'à 20 ans, toiletteur canin.
Eh ben, j'ai toujours aimé les chiens depuis toute petite. Et puis, c'est vrai que j'avais fait un stage en 3e, donc chez un toiletteur canin qui m'avait beaucoup plu. Ensuite, je suis partie plutôt en élevage faire un bac pro élevage canin. Et puis, je suis revenue sur mes pas et je suis partie en apprentissage toilettage. Et je vais en faire mon métier aujourd'hui.
Alors, ce qui vous a fait gagner, j'en parlais tout à l'heure, c'est que vous avez réalisé la coupe mouton sur un caniche. Alors, je ne sais pas ce que c'est la coupe mouton, d'abord. Donc, vous allez peut-être nous expliquer. Et est-ce que le caniche est vraiment votre modèle préféré?
Alors, déjà, la coupe mouton, donc, c'est en partie à la tonte et en partie au ciseau. Donc,
C'est difficile, donc.
Comment?
C'est difficile.
Oui. Bah, c'est... Il faut faire un dégradé entre la tonte et la coupe et les parties au ciseau pour pas que ça fasse de grosses pattes, par exemple. Ensuite, il y a la partie rasée aussi. On rase les bouts de pattes, le museau. Donc, c'est vrai que ça s'apprend, comme on dit.
et le caniche, c'est votre modèle préféré?
Oui, j'aime bien faire les caniches, oui.
Et quel est le chien le plus difficile à toiletter pour vous?
Oh, ils ont tous une particularité, on va dire. Il y en a certains, c'est le démêlage, d'autres bien les brochets, c'est-à-dire tous les défriser pour pouvoir faire une belle coupe ciseaux dessus. Ils ont tous leurs petites difficultés.
Alors, j'imagine qu'il faut avoir le feeling avec les chiens pour faire ce métier-là, parce que les chiens, ils sont pas forcément coopérants. Pendant le shampoing, la coupe.
Ils aiment pas trop ça quand même.
Comment vous faites, vous avez votre truc?
Oh, il y en a quelques-uns, mais on arrive à leur faire comprendre doucement qu'on leur veut pas de mal, que c'est pour leur bien, et que finalement, ils arrivent à aimer ça presque.
Ouais, ils apprécient, à votre avis, Pauline?
Oh, il y en a certains qui aiment bien, oui.
Vous les massez ou pas?
Oui, bah, dans le bain, on leur fait des petites gratouilles, ça, ils disent pas non, hein.
Oui, c'est un peu leur spa.
Oui, voilà.
Est-ce qu'il y a une mode dans les coupes de chiens? Ou est-ce que la mode mouton, c'est la mode, par exemple, intemporelle pour le caniche?
Bah, c'est vrai que le caniche, oui, il y a beaucoup de coupes différentes. Mais c'est vrai que celle qui revient quand même la plus souvent, c'est la coupe mouton, oui.
Et il n'y a pas de mode? Il n'y a pas de chaque année, un peu comme nous, pour les coupes de cheveux?
Au niveau des coupes, pas trop. C'est plutôt au niveau des chiens, selon des années. Des fois, la mode de chien change. Mais...
Oui. Et est-ce qu'on vous nous demande des colorations? Parce que nous, on a des colorations sur les...
Est-ce qu'on vous... mais ça, non, je fais pas.
Très bien. Question de notre réalisateur Jérôme. Est-ce que vous pouvez le toiletter, les transformer en moutons?
Il n'a pas beaucoup de poils, hein, je dis.
Ah, en plus, ça va être compliqué, parce que là, pour mon chien d'examen, il a quand même que j'ai 6 cm. Donc...
Non,
6 cm, il ne les a pas.
On va attendre quelques mois, et puis vous viendrez vous en occuper. D'accord?
Oui, pourquoi pas.
Et dernière question, qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes qui vous écoutent et qui veulent faire ce métier?
Eh bien, qu'il faut rester motivé, qu'il faut trouver un bon patron comme moi j'ai eu. Donc, c'est M. Moulin-Richard à Givors, dans le Rhône. Mmh. Et après, trouver une bonne école aussi, comme j'ai eu la chance d'avoir à La Ciotat.
Et aimer les animaux comme vous les aimez, j'imagine.
Et parce voilà, que aimer ça, les animaux, c'est sûr que si on les aime pas, ça va être compliqué de faire ce métier.
Bravo, Pauline.
Merci, Pauline.
Merci à vous.
Bon dimanche à vous.
À bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir et encore bravo.
Ouais, toute gentille et toute mignonne, Pauline.
Elle n'a que 20 ans
en plus, c'est bien. 7h51, Laetitia. Nous allons maintenant accueillir Audrey, qui est une auditrice de RMC et qui va nous raconter son histoire. Bonjour Audrey.
Bonjour Audrey.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous nous avez écrit une belle histoire. Vous êtes famille d'accueil pour un chien qui a 10 mois et qui était menacé d'euthanasie parce qu'on le croyait fou, c'est ça?
C'est ça.
Alors racontez-nous.
En fait, c'est un chien qui a été sur les 4 premiers mois de sa vie. Apparemment, il a été enfermé dans un garage.
Oui.
Donc personne ne s'en occupait plus que ça. On lui jetait à manger comme ça et il était enfermé dans un garage. Donc c'est un peu traumatisant même pour un chien en étant.
Bien sûr.
Chiot, quoi.
Ben oui, et c'est donc, en pleine période de développement là en plus.
Voilà, c'est ça. Donc c'est là qu'il prend tous ses repères et c'est là qu'il développe ses peurs, ses craintes. Et une dame donc l'a recueilli, c'est bien, elle l'a adopté. Ce chien a été sauvé, elle l'a adopté. Elle l'a adopté en sachant son passé. Donc c'est vrai que quand ils ont déjà un passé comme ça, c'est déjà pas évident. On se dit déjà qu'ils vont avoir des tares, enfin, qu'ils risquent d'avoir des tares, parce que c'est pas évident. Donc elle l'a pris, sauf qu'elle n'avait pas vraiment la capacité, peut-être, ou la connaissance du système canin pour pouvoir vraiment gérer les problèmes qu'il allait développer par la suite. Donc elle a, je dis pas qu'elle l'a pas aimé, hein, mais
elle a fait ce qu'elle a pu.
Elle a dit qu'elle avait fait ce qu'elle avait pu. Bon, après c'est chacun son opinion personnelle. Elle l'a amené voir apparemment des comportementalistes qui l'ont déclaré fou. Alors déclarer un chien fou quand il est encore chiot, je trouve que c'est quand même un peu.
Alors à mon avis, c'était pas des vétérinaires, parce que nous, vétérinaires, on dit jamais ça, hein, donc.
Non, c'était des comportementalistes. C'est bien pour ça que j'ai dit des comportementalistes, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui se disent comportementalistes aussi. Mais comportementalistes, c'est pas évident à trouver.
François, par exemple, il peut mettre sa plaque de comportementaliste, hein.
Voilà.
S'il veut.
Ah oui, bien sûr.
Oui.
Quoique, il est très bon en comportement du chien, hein, François. Donc,
mais c'est grâce à vous, Laetitia, depuis toutes ces années.
C'est sûr.
Voilà, à force de côtoyer aussi.
Évidemment.
On a appris par rapport à ça aussi, hein, donc. Mais on se dit pas comportementaliste. Après, donc ce chien, elle le laissait le soir. Elle avait une activité le soir, donc elle le laissait 4 heures le soir. Et évidemment, comme beaucoup de chiots ou de chiens, quand vous les laissez seuls, ils vous montrent.
Ils s'accagent.
Ils s'ennuient, donc ils s'accagent. Donc elle a soi-disant chercher toutes les solutions, et du jour au lendemain, elle en a marre, elle l'a amené chez le vétérinaire, elle lui a dit, écoutez, moi, il faut l'euthanasier, j'en peux plus, il me casse tout, j'ai tout essayé, il faut l'euthanasier. Donc le vétérinaire a appelé la directrice de notre club canin,
oui,
là où mon mari travaille, Et elle lui a dit, écoute, ce chien, c'est un bébé, est-ce qu'on peut le sortir, quoi? Donc, on l'a récupéré dans la journée même.
Oui.
On l'a chez nous. Donc, depuis, ça va faire un gros mois, on va dire.
Oui.
Et c'est un chien qui est génial. Il est très très câlin, très c'est très sur l'humain en fait. Il adore l'humain.
Oui.
Il est très
spirituel. Et pourtant l'humain, voilà.
Voilà. Ouais, non. Après, du moment qu'on lui a donné un peu de câlin, un peu de machin, après il est toujours collé à nous, quoi.
Oui.
Il est très speed. Il est très joueur. Donc nous, on a un dog argentin. Donc il a de quoi jouer parce qu'elle se régale aussi. Donc voilà, c'était une chose qu'il fallait aussi, ben c'était de quoi s'occuper. Donc il est très joueur, il joue même tout seul, hein, il prend son jouet, il joue tout seul. Il apprend super vite, il a appris des gestes que bon, nous on a notre chienne est sourde, donc on lui parle par geste. Et ben il a appris à faire exactement la même chose rien qu'en regardant notre chienne. Et l'attitude qu'on avait envers notre chienne, ben il fait exactement la même chose.
Incroyable.
Comme pour le repas, ils ont deux cages séparées parce que nous on a des cages à la maison pour en tant que niche. Hein, ils ont deux cages séparées, ils se voient donc à travers et tout. Quand on donne à manger à la nôtre, on lui fait le geste d'attendre et le top départ pour manger. Et ben à force de voir faire, il a fait exactement la même chose. Deux ou trois matins plus tard, il a attendu et on s'est demandé pourquoi et on lui a fait le top départ qu'on fait à la nôtre et il s'est mis à manger. Et en fait, pour vous dire que c'est quand même un chien qui est pas si fou que ça. Parce qu'il apprend énormément et très très vite.
Bien sûr.
Il a eu un mauvais départ,
mais ça ne veut pas dire qu'il faut le condamner. Et il faut un environnement approprié pour lui.
Voilà. Donc, après, il y a énormément de gens qui disent, et moi la première, hein, avant qu'on ait un chien, c'était la cage, enfin, la caisse dans la maison. Si c'est pour enfermer un chien, ce n'est pas la peine et tout. Et on s'est aperçu qu'en fait, un chien se sent en sécurité dans une caisse.
Oui, mais oui.
Porte ouverte, hein.
Mais oui.
Dire, nous, la nôtre, elle est en porte ouverte, elle y va, elle y dort, c'est son coin, c'est sa place. Hein.
Le plus important pour lui, c'est d'avoir son coin à lui.
Voilà. Et en fait, on s'est aperçu que même, nous, depuis qu'on fait famille d'accueil, on a eu des chiens qui étaient fugards, donc on a été obligé d'instaurer la caisse quand on n'était pas là. Et bien, ces chiens-là, on s'est aperçu qu'ils allaient d'eux-mêmes, même dans la journée, dans leur caisse, tellement ils étaient bien. Et du coup, Marley, quand on n'est pas là, parce qu'effectivement, ben, il continue à être destructeur quand il est seul, quand on n'est pas là, il est en caisse. Il y va avec plaisir, il y reste, il se pose. C'est des moments de la journée où justement il est tranquille. Mmh. On a beaucoup de temps, nous on est à la maison, donc il n'est pas souvent fermé. Mais... Et c'est un chien qui est complètement gérable du moment qu'on a trouvé la solution de « il est en caisse quand il est seul ».
Et je crois qu'il est adopté, hein, c'est ça?
Non, pas encore. Non, on cherche un adoptant justement.
D'accord.
Merci Audrey pour ce témoignage.
Voilà,
histoire.
Et Marley qui est un très beau chien. On va vous mettre aussi la photo sur Facebook. C'est un très beau chien qui est à l'adoption et qui a 10 mois et voilà, qui ne demandait que ça, de l'affection et une bonne famille.
Eh bien voilà, une belle histoire qui se termine bien.
Merci Audrey en tout cas, merci pour tout ce que vous faites.
Un mot sur notre vidéo LOLCAT, un chat et un écureuil. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont ensemble? Eh bien justement, ça se passe bien. Ça se passe très bien
en tout cas sur la vidéo.
Sur la vidéo, oui, parce qu'en général, c'est pas le cas. Mais là, ça se passe bien. À retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Et vous cliquez sur j'aime au passage.
Voilà, vous voyez un écureuil et un chat jouer ensemble. C'est à mourir de rire. Et c'est tellement attendrissant.
Laetitia, on se retrouve bien sûr dimanche prochain entre 6h et 8h.
Oui, je vous embrasse tous.
Voilà.
Bien sûr. Et j'embrasse Jean-Luc aussi qui vient d'arriver dans notre studio. Et bon dimanche à tous.
Jean-Luc Moreau dans un instant à mes côtés. C'était pour notre rendez-vous auto, après la météo et des infos de 8h. À tout de suite.